France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le département du Jura qui est à l'honneur cette semaine dans les carnets. Si vous circulez en voiture dans le secteur, vous avez sans doute déjà vu un panneau pour vous inviter à faire attention au lynx. Ce félin aux oreilles pointues, espèce menacée, est en effet souvent victime de collisions routières. Ces panneaux routiers sont installés par un centre de soins de la faune sauvage, le centre Athéna, qui est le seul en France à soigner des lynx. Voilà qui mérite une page entière de nos carnets. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Gilles Moine.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du centre Athénas qui est situé à l'Étoile, tout près de Lons-le-Saunier. Vous accueillez beaucoup d'animaux différents, notamment des rapaces, des hérissons, des renards et aussi des lynx. À quel danger ce grand prédateur est-il exposé ?
Alors, il est essentiellement exposé aux dangers, aux collisions routières, en fait, et puis à la malveillance de ceux qui ne supportent pas bien sa présence. Donc, en fait, les deux principales causes de surmortalité sont les collisions routières, c'est 25 individus par an qui sont concernés sur un effectif total d'environ 150 adultes, et puis le braconnage pour un effectif qu'on ne connaît pas, malheureusement, parce que ça reste caché et cryptique.
Le braconnage, donc la chasse illégale. Que disent les chasseurs qui s'en prennent aux lynx, en général ?
Alors, ils ne s'en vantent pas, oui. Mais on sait par certains courriers anonymes, par la découverte de certains cadavres, qu'ils ne supportent pas l'idée de la concurrence. En fait, c'est ça le fond du problème. C'est un problème purement culturel et une appropriation exclusive de certaines espèces animales.
Oui, parce que le lynx s'en prend au gibier et certains chasseurs y voient donc une concurrence déloyale ?
Oui, absolument. Alors en fait, la différence entre les deux, c'est que le lynx, lui, en a besoin pour survivre. Hein. Il fait ça par nécessité vitale, alors que les chasseurs, eux, exercent une activité ludique et donc c'est là que le bât blesse, selon eux.
Mmh. Je repense aux panneaux que vous offrez aux communes autour de vous pour sensibiliser les automobilistes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est au volant pour faire attention aux lynx ?
Alors tout simplement, il faut respecter déjà les limitations de vitesse et lorsqu'on pénètre dans un espace boisé, ce qui est fréquent dans notre région, eh bien il faut simplement avoir un niveau de vigilance un petit peu plus élevé et se dire qu'on peut rencontrer un animal sauvage. Donc ça peut être un lynx, ça peut être aussi une autre espèce. On s'est dit que ce panneau, en faisant figurer une espèce emblématique, serait de nature à donner un supplément d'attention aux automobilistes, sachant que maintenant, il ne faut pas se voiler la face. À peu près personne ne remarque plus le cerf bondissant qui est le panneau qui dit oui. Attention, faune et danger de collision.
Oui, c'est le problème des panneaux trop fréquents qu'on finit par ignorer ou oublier en tout cas.
Exactement. Mmh. Donc, on s'est dit que là, c'est le facteur humain qui compte. Donc, on veut sensibiliser les usagers de la route au fait que si une espèce aussi menacée est en plus victime de collisions routières de façon fréquente, ça risque d'amener à une seconde disparition. Donc c'est aussi pour eux une manière de s'approprier cette espèce en disant c'est un élément de notre patrimoine naturel et on va faire en sorte de le préserver.
Animal emblématique, disiez-vous, on estime qu'il y a environ 200 lynx en France aujourd'hui. C'est un prédateur qui a frôlé l'extinction il y a quelques années. D'ailleurs, beaucoup de monde ignore qu'il y a des lynx en France. Est-ce que vous êtes inquiet pour la survie de l'espèce, Gilles Moine ?
Oui, parce que rien n'est acquis. En fait, on est ce qui est connu en fait en population établie, c'est environ 150 adultes dans le massif du Jura. Pour le reste, c'est des individus, ce qu'on appelle des individus dispersants, isolés, qui sont sur les marges de colonisation et du coup qui ne sont pas connectés à la population. À ce niveau d'effectif, ça reste une espèce en danger, d'autant plus que son patrimoine génétique manque de diversité. Et du coup, il y a un besoin urgent, pressant, de mélange de gènes avec d'autres populations d'Europe, que ce soit par la reconstitution de continuité forestière ou par l'apport de nouveaux gènes, par exemple en échangeant des individus comme on l'a proposé au service de l'État, en échangeant des orphelins avec d'autres pays, ce qui constituerait un boost génétique sans précédent pour l'espèce.
Ce sont en particulier des orphelins que vous recueillez dans votre centre. Quel type de soins proposez-vous à ces animaux en détresse ?
Oui, ce sont des orphelins en majorité, souvent dans un état très dégradé, malades, amaigris, parce qu'ils ne savent pas encore se débrouiller sans leur mère, qui a disparu dans des conditions violentes qu'on a pu évoquer, ou braconnage ou collision routière. Et du coup, ces jeunes, on doit d'abord leur reconstituer un bon état de santé, et puis ensuite, on les met en présence d'une femelle adulte non relâchable qui va avoir avec eux des échanges sociaux et qui va compléter les apprentissages qu'ils auraient pu avoir avec leur mère dans la nature, jusqu'à ce qu'on les amène à une stature suffisante pour pouvoir être relâchés, c'est-à-dire à l'âge auquel habituellement ils quittent leur mère dans la nature, donc aux environs de 11 mois.
Pourquoi les femelles dont vous parlez ne sont-elles pas relâchables ?
Alors là, il s'agit de femelles qui ont été victimes de collisions routières et qui ont eu des traumatismes crâniens qui ont occasionné des séquelles neurologiques durables. Alors, ça ne les empêche pas de vivre en captivité. En revanche, elles ont des problèmes de perception de leur environnement, des problèmes de localisation dans l'espace, ce qui fait que dans un espace restreint, elles arrivent à gérer sans aucun problème la situation. Elles arrivent aussi à avoir des rapports sociaux normaux, puisque ce sont des rapports qui sont basés à la fois sur le sonore, l'olfactif et le contact. Donc il n'y a aucun problème avec ces jeunes. Elles sont très, très avenantes et très tolérantes. Et c'est ce qui nous permet justement d'abaisser considérablement le niveau de stress de ces jeunes jusqu'à leur relâcher, puisque pour eux, la captivité est un stress.
Le moins possible de contact avec les êtres humains, je crois, en captivité.
Bien sûr, c'est pour cette raison qu'on leur donne quelquefois des rations pour plusieurs jours. Et c'est également pour cette raison que nos enclos sont équipés de vidéosurveillance en continu, qui nous permettent de mesurer leur progression, l'amélioration de leur état, à distance, sans interférer avec eux, ni leur occasionner du stress.
On trouvera sur votre site internet un numéro d'urgence à appeler si on trouve un animal sauvage en détresse dans le Jura. Et un autre numéro entièrement dédié aux lynx. Combien de lynx y a-t-il chez vous en ce moment, Gilles Moine ?
Alors actuellement, il y a 3 lynx. Ce sont des individus dont les deux femelles non relâchables dont je vous parlais et un mâle qui est en soins à longue durée depuis plusieurs mois. En période d'activité forte, c'est-à-dire en période automnale et hivernale, on recueille environ chaque année une dizaine d'individus avec un taux de survie qui est de l'ordre de 30 à 40%. Ce sont souvent des individus vraiment très impactés, que ce soit par les collisions ou des jeunes prolongés. Et puis le reste de l'année, on récupère plus de 6000 individus de toutes espèces. Donc là, ça va de la cigogne à la chauve-souris et bien évidemment le hérisson, l'espèce la plus recueillie au centre avec plus de 1000 individus chaque année.
Pour en revenir au lynx, vous avez récemment relâché quelques individus et vous les relâchez avec un collier GPS. Pour quelle raison ?
Alors c'est pour deux raisons principales. Premièrement, c'est une façon de connaître quel est le devenir de cet individu et quelle est la qualité de sa réinsertion, éventuellement de pouvoir intervenir s'il se trouvait en état de péril ou dans une situation vraiment dangereuse. L'autre raison, c'est que ça nous permet de collecter tout un tas d'informations intéressantes sur la façon dont ils occupent l'espace, dont ils franchissent les obstacles, dont ils se nourrissent et dont ils interagissent avec leur milieu et avec leurs congénères. Donc tout ça, c'est un tas de données sur lesquelles travaille un de nos collègues qui est un chercheur et qui travaille à des publications scientifiques qui permettent d'abonder la somme de connaissances sur l'espèce lynx boréal.
Mais vous ne tracez pas les animaux tout au long de leur vie, ce suivi GPS
non.
Finit par s'arrêter.
On n'a pas envie de les enquiquiner toute leur vie. Ils ont bien gagné leur liberté totale. Tout simplement, le collier se décroche spontanément. Il y a un petit système de minuterie qui permet d'ouvrir une sorte de serrure. Le collier se décroche tout seul. Il émet encore, donc on peut le retrouver, ce qui évite de laisser un déchet dans la nature. Et on peut surtout le réutiliser en changeant la batterie, ce qui nous fait réaliser des économies substantielles.
Pourquoi le lynx est-il très important dans son écosystème, Gilles Moine ?
Alors le lynx, il est important comme tout grand prédateur. Il a ce qu'on appelle un rôle écosystémique à jouer, dans le sens où il a un impact sur les populations de proies. On appelle ça, pas que pour le lynx, d'ailleurs pour le loup, comme pour le lion et même les hyènes dans certaines zones, le paysage de la peur. C'est-à-dire que dans les zones où il n'y a pas de grands prédateurs, les ongulés prolifèrent et donc se retrouvent omniprésents en harde importante. Et du coup, ça a un impact sur le milieu. Donc chez nous, c'est par exemple l'abrutissement sur les régénérations forestières, c'est-à-dire que si on peut avoir un impact fort sur les nouvelles pousses d'arbres dans les forêts. À l'inverse, lorsqu'on a un grand prédateur, les hardes éclatent, les animaux sont plus méfiants. Ils ont donc en même temps un moins grand risque sanitaire, c'est-à-dire que les hardes étant peu importantes, il y a un moins grand risque de contamination d'un individu à l'autre. Et du coup, il y a une amélioration qualitative de la santé des espèces proies que sont les sangliers, les chevreuils et les chamois. Et cette moins forte densité a aussi un impact donc sur la végétation et sur l'occupation du milieu par d'autres espèces. Et par exemple, le fait que les buissons de myrtilles ne soient pas broutés de façon importante par des ongulés permet au grand tétras, espèce également menacée, de pouvoir profiter de ses fruits. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des impacts en cascade, un effet en cascade sur l'ensemble des espèces.
Et quel est le lien précisément entre la présence du lynx et la pousse des arbres ?
Les arbres, c'est tout simplement que les chevreuils broutent à leur hauteur les pousses des arbres, des jeunes arbres, et les empêchent de grandir.
Ah, donc quand ils ont moins peur parce que le lynx n'est pas là, ils broutent plus.
Voilà. Oui, c'est ça. En fait, il y a moins d'effets de broutage sur les régénérations forestières, des effets massifs lorsque les hardes sont moins importantes, parce que ces animaux deviennent plus mobiles et plus méfiants.
Comment est financé votre centre de soins de la faune sauvage ?
Alors, il est financé à maintenant plus de 90% par des dons, par des contributions privées, ce qui nous permet d'avoir une grande liberté et une grande réactivité. Donc, on est plutôt satisfait de ne pas être dépendant des subventions.
Question plus personnelle, je suis certaine que vous êtes fasciné à titre personnel par cet animal. Qu'est-ce qui vous plaît en particulier chez le lynx ?
C'est assez indescriptible. C'est les félins, d'une façon générale, sont une version de l'évolution très aboutie, qui chasse à l'économie et qui ont une gestion de la ressource naturelle et de leurs ressources alimentaires tout à fait exemplaire. Un lynx va tuer une proie, la dissimuler, la consommer pendant une semaine et puis ensuite changer d'endroit pour pouvoir prendre par surprise d'autres proies. Il ne va pas, disons, taper dans le frigo, comme on pourrait dire vulgairement, jusqu'à épuisement des stocks. Ce n'est pas du tout sa façon d'être. Et je pense que les humains feraient bien d'en prendre de la graine. En fait, c'est un animal tout à fait exemplaire. Au-delà de l'esthétique de l'animal et puis de son côté à la fois nonchalant et un petit peu discret et fantomatique, beaucoup de gens l'appellent le fantôme du Jura. C'est vrai qu'il n'est pas rare qu'à demi dissimulé, il observe les promeneurs ou les photographes qui essaient d'en capturer une image sans pour autant se faire voir.
Et puis il est très mignon, disons-le.
Oui, mais alors en fait, nous, on ne travaille pas trop sur la mignonitude.
Faut pas dire ça à un naturaliste, évidemment. Les oreilles pointues, c'est quelque chose.
Bon, ses oreilles ont une fonction, c'est les vibrisses. Donc, le lynx a une bonne vue, mais pas, disons, c'est pas son sens dominant. Il a surtout un odorat et une ouïe exceptionnelles. Et s'il a une bonne vue, elle n'est pas aussi bonne que celle du chat, puisqu'il a une moins bonne vision nocturne, mais néanmoins, il peut se déplacer la nuit, puisqu'il a une activité essentiellement crépusculaire.
Voilà, on parle de l'œil de lynx, mais on devrait parler plutôt de l'oreille du lynx.
Oui, tout à fait. L'œil de lynx, c'est un total abus de langage.
Le centre Athénas, c'est donc à l'Étoile dans le Jura. Merci beaucoup, Gilles Moine.
Merci à vous, avec plaisir.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Sachez que la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône seront bientôt au programme des carnets de campagne. Alors n'hésitez pas à nous écrire sur le site de France Inter pour signaler des gens géniaux et des initiatives positives dans ces départements.